Vous écoutez
RMC. RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Armel, Julien Laurence, Franck Crochet et Paulo Breitner. Toujours 1-0 pour Auxerre sur la pelouse de l'Ajaccio après 35 minutes de jeu. 1-0 pour l'Atlético de Madrid sur la pelouse de Villarreal grâce à Witsel. On est ensemble jusqu'à 22h et puis l'Inter mène toujours 1-0. Mais ça, c'est anecdotique désormais. Plus de suspense en Italie. Et oui, Johan. Comme en Allemagne d'ailleurs. Alors qu'en Angleterre, les amis, trois équipes en trois points.
Meilleur champion du monde.
Liverpool a pris la tête de Premier League, 2 points d'avance sur Arsenal désormais. 3 sur City grâce à une victoire de 2-1 contre Brighton. La question qui nous réunit ce soir, que j'ai posée il y a 2 semaines pour Arsenal, mon cher Julien, est-ce que ça fait désormais de Liverpool le favori selon toi? Et si oui, pourquoi?
Ouais, selon moi, selon Pep Guardiola aussi, hein, qui l'a dit hier après le match, Liverpool sont premiers, c'est eux les favoris, tous les premiers sont toujours favoris, puisqu'ils sont en tête. Bernardo Silva a dit un petit peu la même chose. Les Anglais aiment beaucoup dire, ce qui est pas forcément toujours juste, mais qu'ils ont leur destin en main finalement, parce que si Liverpool gagne tous leurs matchs entre aujourd'hui et la fin de la saison, ils seront champions, plus personne ne peut les rattraper, vu qu'ils ont aujourd'hui, comme tu l'as dit, 2 points d'avance sur Arsenal et 3 sur City avec une différence de but légèrement défavorable par rapport à Arsenal, un peu plus favorable par rapport à City, mais quand même. Et donc si on se plonge sur le calendrier, les matchs qui restent, on pourrait peut-être aussi dire peut-être que Liverpool d'ailleurs a le meilleur calendrier jusqu'à la fin de la saison. Ce qu'on sait, c'est par exemple que Brighton, qui a donc perdu hier à Liverpool 2-1 après avoir mené après 87 secondes de jeu, on reviendra un tout petit peu sur notamment la performance de Mo Salah et celle d'Alexis Mac-Allister, mais Brighton va aussi affronter Arsenal par exemple à domicile le week-end prochain, et puis ensuite City, Aston Villa qui joue contre City mercredi parce qu'on a une journée en milieu de semaine, demain et après-demain, aussi affrontera Liverpool et Arsenal plus tard dans la saison, et Tottenham sera le dernier club qui affrontera les trois entre maintenant et la fin de saison. Donc on aura des arbitres dans cette course au titre qui est vraiment incroyable, on n'a pas eu ça depuis très très longtemps en Angleterre, donc tout le monde est très excité. Donc avantage Liverpool bien sûr, même si par moment ils sont pas toujours sereins, ils sont pas toujours exceptionnels, on l'a vu contre Brighton, même si ce sont créé des occasions, mais il a fallu par exemple Mo Salah 12 tirs pour marquer. On a vu une masterclass de Mac-Allister au milieu de terrain qui est absolument formidable maintenant qu'il a été positionné un petit peu plus haut en numéro 8 alors qu'il a joué en numéro 6 la première partie de saison. Mais c'est vrai que quand il est comme ça, c'est un vrai bonheur à voir jouer. C'est assez hallucinant l'influence qu'il peut avoir sur un match, tout ce qu'il peut offrir en termes de créativité, de ses passes, passe longue, passe courte sur le but de Salah notamment. C'est juste magnifique le tempo et le timing de sa passe, de son contrôle et de sa passe pour Salah. Mais c'est aussi une équipe de Liverpool qui a souffert en début de match, je l'ai dit, pour le but de Welbeck très tôt. Même après, en fin de match, alors qu'ils menaient 2-1, ils ont concédé pas mal d'occasions. Les remplaçants pour De Zerbi et Brighton ont plutôt eu un impact assez positif, j'ai trouvé, en fin de match. Donc ça aurait pu tourner sur un 2-2 par exemple aussi. Donc je le dis à chaque fois, mais je pense que et Liverpool et City Arsenal vont continuer à perdre des points entre aujourd'hui et la fin de saison. On verra celui qui en perdra le moins, mais c'est vrai que pour l'instant, forcément, avec il reste 8 matchs à jouer, ils ont 2 points d'avance, Liverpool, ils sont favoris.
Julien, une question. Outre les trois équipes engagées pour le titre, dans l'ambiance générale de la Premier League, est-ce que les gens neutres ont envie que ce soit Klopp et Liverpool qui remportent
pour la belle histoire,
pour se dire voilà, il a apporté beaucoup à ce championnat pendant de nombreuses années. Est-ce qu'il y a cette envie, voilà, que ce soit lui qui remporte, ou ils s'en foutent les gens?
Non, je pense qu'il y a un peu de ça, Fredo, t'as raison. Et puis en plus, ils font un documentaire, donc c'est vrai que ce serait une super belle histoire de la dernière danse un peu à la Michael Jordan pour Jurgen Klopp. Ce serait incroyable. Alors il a gagné déjà un trophée. Il sera pas en finale de la Coupe d'Angleterre, donc il pourra pas gagner le quadruplé avec le championnat et la Ligue Europa, parce qu'ils ont perdu contre United. Mais oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Ce qui est bien, finalement, c'est que si Arsenal l'emporte, ce sera la première fois depuis 20 ans, c'est le 20e anniversaire des Invincibles, cette saison. L'équipe de Thierry Henry qui est champion sans perdre un seul match de la saison, en 2004. Ce serait beau. Si Guardiola et City venaient à l'emporter, ce serait un 4e titre de suite, ce que personne n'a jamais fait dans l'histoire du football anglais. Donc ça aussi, ce serait génial, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que City construit, ce que City a fait, ce que Guardiola a fait, l'argent dépensé, etc. Peut-être, mais ça resterait quand même assez incroyable. Donc finalement, peu importe lequel des trois sera champion, il y aura forcément quelque chose de très beau à raconter, même plus tard, quand on se repenchera sur cette saison-là. Après, ce qui est aussi assez hallucinant dans cette course au titre, elle est très très belle déjà, mais c'est surtout l'écart entre ces trois-là et le reste. Parce que finalement, Aston Villa, c'est une belle histoire, et puis ils sont pas très très loin. grossièrement parlant au classement. Tottenham aussi avec Postecoglou, c'est très bien, c'est une première saison, c'est magnifique, mais t'as quand même une équipe de Manchester United qui est catastrophique. On l'a encore vu à Brentford samedi soir où ils font match nul, mais c'est un miracle. Chelsea c'est catastrophique aussi, ils font 2-2 contre Burnley aussi. Donc parmi les grosses équipes en Angleterre, t'as aussi des catastrophes cette saison, mais ces trois là sont tellement tellement supérieurs, tellement dominateurs et finalement tellement beau avoir joué pour différentes raisons au cours de la saison, qu'on a vraiment ces 8 matchs qui vont arriver et qui vont être vraiment un vrai plaisir à suivre.
Ça vous plairait ? Vas-y, Polo.
Ouais, Julien, moi, il y a quand même un facteur qui me passionne dans cette équipe de Liverpool, c'est Endo quand même, quoi. Parce que il a été transféré quasiment à la dernière journée du mercato, dernier mercato hiver estival. Il est c'est un excellent joueur, c'est une chose, mais là j'ai l'impression qu'il est maintenant installé en 6 dans le 4-3-3 de Jürgen Klopp. Ouais. Et c'est quand même une progression que je trouve assez dantesque. Alors, est-ce que ça veut dire que la plupart des coachs ou scouts d'Europe ont rien vu par rapport au potentiel de ce joueur japonais que j'aime beaucoup au demeurant? Parce que je rappelle que Stuttgart cette année fait une meilleure saison que lorsqu'on avait Endo.
C'est
un truc quand même très parlé. Et là, enfin, c'est quand même assez extraordinaire. Entre un mec qui doit faire le banc et qui est quasiment toujours titulaire. Alors, je me rappelle plus de tout l'effectif s'il y a des blessés à Liverpool. Je crois qu'on a pas mal en défense, mais
ouais, il y en a pas mal. Ouais, il y en a pas mal.
Mais c'est quand même un truc assez extraordinaire, quoi, Endo, non?
Ouais, c'est une très belle histoire, t'as raison. Surtout qu'il a vraiment bien progressé individuellement dans l'utilisation du ballon, en fait. C'est un petit peu les soucis que j'avais au départ quand il est arrivé. Tu me rappelles d'un match, je crois d'ailleurs le match aller contre Brighton, à Brighton, où par exemple il avait un très très gros problème dans le scanning, dans la vision du jeu avant de recevoir le ballon, au point que tu pouvais le regarder. Si tu gardais tes yeux que sur lui par rapport à ce que tu pouvais voir à la télévision ou au stade, il avait beaucoup de mal à faire progresser donc le ballon, parce qu'il ne voyait pas trop ce qui se passait autour de lui. Aujourd'hui, c'est bien différent. Alors, je pense que c'est plus facile. Je pense c'est un joueur, c'est quand même très intelligent, qui a compris que finalement, lui, il était là pour récupérer les ballons. Il fait beaucoup d'efforts, il court énormément, tout ça. Et même s'il a progressé dans l'utilisation du ballon, il sait encore très bien qu'il la donne à McAllister. Même dans une situation compliquée avec deux joueurs sur le dos, McAllister, il va te nettoyer tout ça, il va te ressortir le ballon, ça va être un diamant. Et après, c'est lui qui va faire le jeu. Je pense qu'au début, notamment, il avait peut-être voulu trop forcer un petit peu dans son utilisation du ballon à lui, en voulant faire des choses qu'il sait pas très bien faire, ou en tout cas pas aussi bien faire qu'un Curtis Jones, qu'un Alexis McAllister, voire même qu'un Szoboszlai. Là, il a simplifié son jeu dans un sens, mais je veux pas que ce soit trop péjoratif, parce que il fait vraiment des très très bons matchs. Mais c'est juste que, au lieu de tenter toi la passe de 25 mètres un petit peu compliquée, tu sais, entre deux joueurs, tu donnes le ballon de 2 mètres un petit peu en avant pour McAllister. Lui, il va la trouver cette passe, parce qu'il est meilleur que toi techniquement, et puis c'est plus son jeu que le tien. Et je trouve que finalement, je pense que Klopp lui a fait comprendre que son jeu, ça avait pas besoin d'être trop compliqué, qu'il fallait finalement qu'il se concentre sur ce qu'il sait très bien faire, et qu'il laisse les autres faire un peu plus dans la créativité, dans l'utilisation du ballon.
Un mot, Julien, sur la suite après Klopp, bien sûr. Donc, ce sera pas Xabi Alonso pour la succession. On en est où avec Roberto De Zerbi? Ça semble évident.
Non, pas forcément évident. Alors juste, on a parlé tout à l'heure de Xabi Alonso, gros coup dur à Liverpool, bien sûr, parce que même s'il l'avait senti sur les derniers jours, bien sûr, ils étaient au courant déjà avant la conférence de presse de vendredi. Pour eux, c'était parfait finalement. Klopp s'en va, tu ramènes Xabi Alonso au club, on en avait parlé, etc. Là, c'est un coup dur. Alors il y a une longue liste avec un Frank Hayes par exemple dessus qui plaît bien à Liverpool, parce que dans ce qu'il veut jouer dans sa philosophie à lui, il y a
ça c'est réel, hein, parce que certains se moquaient ici en France.
Frank Hayes à Liverpool, c'est réel. Normal, oui. Si tu regardes, même sans forcément trop regarder la data en détail, il y a des aspects de son jeu ou de son équipe de Lens que tu peux retrouver un petit peu à Liverpool, pas au même niveau, mais voilà.
Donc, mais ça, vous avez de l'argent sens. Parce qu'on va pas vous laisser gratos, hein.
Oui, non, bien sûr, mais on pourra discuter de ça après. Non, mais par exemple, après, dans la plus shortlist, elle, il y a De Zerbi, bien sûr, et Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting. Pour De Zerbi, c'est marrant, parce que par exemple, le Télégraphe, aujourd'hui, ils ont carrément, pour eux, c'était un entretien d'embauche. Pour eux, c'était comme ça. Donc, ils ont fait comment il était habillé, comment il s'est, c'était quoi son attitude sur le banc de touche, ce qu'il a fait après, ce qu'il a fait avant. Ils ont regardé, mais presque minute par minute, son comportement pendant la rencontre à on-field, pour justement voir, si ça pouvait marcher, si ça pouvait aller, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui jouent en sa faveur. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses, et on en avait parlé avec eux quand il m'avait gentiment invité sur son podcast. Dans l'organisation hors terrain des Herbis, ça peut être un petit peu parfois le chaos, c'est un peu chaotique, ça peut être un peu dans tous les sens. Des fois, ils changent l'horaire de l'entraînement 5 minutes avant l'entraînement. Enfin voilà, il est un peu particulier parfois. avec qui travailler. Je ne sais pas si c'est vraiment ce dont Liverpool a besoin maintenant, mais oui, à mon avis, il est tout en haut de la shortlist. Et de ce qu'il a dit avant le match ce week-end, après le match aussi, par rapport à j'ai envie de voir mon président à Brighton, voir ce que sont le plan pour la saison prochaine, tu sentais vraiment qu'il ne serait pas là la saison prochaine. Il ne serait plus à Brighton. Et donc, s'il n'est plus à Brighton, il sera quelque part, forcément, parce que ce n'est pas le genre d'entraîneur qui prend une année sabbatique. Donc, ça pourrait très bien être à Liverpool. Ouais.
Il y a un truc marrant, Julien, sur le match. J'ai vu une partie du match Liverpool-Brighton. C'est que sur des actions collectives bien menées de Brighton, on connaît leur capacité à bien jouer, à construire le jeu de derrière. Il y avait limite, enfin, pas des applaudissements, tu vois, du public de Liverpool, mais tu sais, des petits bruits, genre, ah, c'est pas mal quand même. Hein,
c'est ça qu'on veut voir.
Ouais, exactement, ouais, c'était assez drôle.
Voilà.
Juste pour finir, ce qui est marrant aussi, c'est que dans l'avant-match, Klopp a dit, moi, j'admire ce qu'il fait, c'est un très grand entraîneur, mais moi, je le ferai jamais, quoi. Je peux pas, il dit, je peux pas. C'est, pour moi, construire comme ça, repartir de derrière systématiquement. Alors, Klopp, c'est plus que... la verticalité que des armées, c'est pas la
question. Il va falloir la passer à Klopp, les amis. Hein.
Mais oui, en plus, ça
va être très, très dur. Ouais.
En tout cas. Je sais pas les autres, moi j'aimerais bien que ce soit lui qui gagne la première ligue, hein, quand même.
Mais tout le monde, bien sûr.
Ouais, ouais,
tout le monde,
franchement.
La presse allemande aimerait bien.
La presse allemande aussi. Et Polo aussi, je suis sûr. Même si Polo s'en fout peut-être aussi.
Et pour
d'ailleurs, c'est la minute, c'est la minute de Polo. C'est parti, on voit la musique. Polo. Attends, c'est la fête de la bière à Munich ou c'est quoi ça?
Alors, si vous n'aimez pas ce genre de musique, n'allez jamais en Allemagne.
Exactement.
J'ai pas dit que j'aimais pas. C'est très.
Tu sais, c'est les soirées du mois de juillet.
C'est très folklorique.
N'allez pas dans les bourgeois allemands.
J'ai l'impression de voir Aguilera dans Papillon de la Résistance. On passe des soirées merveilleuses.
Avec des chansons mièvres complètement. C'est si beau qu'il y ait toi encore, etc. De monsieur Hans Hinterseer. Et vous avez ce genre
avec
de chansons
l'accent,
qui
merci.
fait partie de la culture. En Autriche, on trouve la même chose. En Suisse alémanique, on trouve exactement la même chose. Cette culture populaire de cette musique. Encore une fois, n'allez pas dans des brasseries si vous n'aimez pas, un peu à l'ancienne, si vous n'aimez pas ce genre de musique. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé cette chanson, c'est si beau que tu sois là, qu'il y ait encore toi? C'est parce que un consultant de Sky, ancien grand joueur que j'appréciais beaucoup en tant que grand joueur, Dietmar Hamann, Didi Hamann, a fait une interview à la Süddeutsche assez extraordinaire, mais c'est plus un débat collégial que je voulais faire rapidement, même si on n'a qu'une minute. C'est que il a fait une grande interview, etc. Donc on sait qu'il n'arrête pas d'envoyer des taquets à tout le monde, etc. Et à un moment, le journaliste lui pose la question, mais vous avez déclaré que Thomas Tuchel était le plus grand malentendu de l'histoire du Bayern depuis Jürgen Klinsmann. Donc là, on remonte à 2008. Et le journaliste lui fait comprendre, mais vous vous rendez compte de la bêtise, je reste poli, que vous venez de dire. Et Dietmar Hamann, en fait, il se justifie de pourquoi, du comment, etc. Et le journaliste continue à lui dire, mais quand vous êtes à la télé, vous c'est quoi votre travail, en fait? Et ça m'intéresse parce que moi, j'ai toujours pas compris à 99% pourquoi des anciens, quelle est la plus-value en fait d'anciens professionnels de football dans les médias. C'est-à-dire que je suis intéressé par leur côté scientifique, technique, ce qui se passe dans un vestiaire, comment on doit négocier un coach aujourd'hui, mais tout ce qui est avis, j'ai beaucoup de problèmes, à part qu'on me dise, mais ouais, mais c'est la société du divertissement, il faut faire du buzz systématiquement. C'est extrêmement néfaste, je trouve, pour l'évolution ou l'apprentissage. Donc voilà, je voulais rapidement mon l'avis de mes collègues là-dessus. En tout cas, autant j'étais fan de Didi Hamann, joueur, à Liverpool, au Bayern, etc.
Rappelons Ligue des Champions, Bayern, Liverpool, cadre de la National Mannschaft, voilà, énorme joueur pour les plus jeunes qui nous écoutent.
Moi, je pense qu'on peut faire un débat un soir.
On va faire un vrai débat en longueur là-dessus parce que c'est un débat qui raconte l'évolution de notre football et société également.